France Culture.
La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
Depuis 50 ans, on trouve de la matière organique un peu partout dans l'univers. Pourtant, nulle trace de vie semblable à la vie terrestre n'a été découverte ailleurs. Comment ce constat nous renvoie-t-il à un problème encore irrésolu, celui de l'origine de la vie sur Terre ? En résumé, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Le problème de l'émergence de la vie a beau être ainsi posé simplement, il n'en demeure pas moins un abominable mystère qui s'est accentué avec la théorie de l'évolution et des découvertes comme celle de l'ADN. Et si la vie n'avait pas simplement émergé grâce à de bonnes molécules, mais plutôt grâce à des environnements propices qui poussent les mélanges chimiques à se reproduire, varier et être sélectionnés, bref, à évoluer. C'est en résumé l'hypothèse de nos invités du jour qui, grâce à la microfluidique, cherchent à recréer sur des micropules des milliers d'environnements qui permettraient de dessiner une évolution primitive complète. Vie sur puce, une micro-révolution dans l'évolution. Bonjour Grégoire Danger.
Bonjour.
Vous êtes professeur de chimie à l'université Aix-Marseille et vous êtes responsable de l'équipe Astro du laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires. Et bonjour Philippe Enguet.
Bonjour.
Vous êtes biophysicien, professeur de biologie à l'école polytechnique et chercheur à l'école supérieure de physique et de chimie industrielle, l'ESPCI de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous le savez, vous pouvez retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @ScienceCQFD. Alors, on est vraiment ravis de vous recevoir, Philippe Enguet et Grégoire Danger, parce qu'à l'origine de cette émission, il y a un article que vous avez co-signé dans le magazine Pour la Science en juillet 2024, intitulé « Les premiers pas de l'évolution en laboratoire ». Un article passionnant, mais aussi assez complexe, dans lequel vous présentez vos travaux de recherche communs, sur lesquels on reviendra bien sûr en détail dans notre émission. Mais avant de développer le contenu en détail de vos travaux dans la deuxième partie de l'émission, j'aimerais qu'on rappelle les raisons pour lesquelles la question de l'origine de la vie sur Terre est encore entourée de flou. Pourtant, c'est pas faute de lire quasiment chaque jour de gros titres qui parlent de la découverte d'un acide aminé ou de toute autre matière organique sur des astéroïdes, des comètes ou des lunes du système solaire. Et très vite, ces annonces disent « Et si on avait enfin trouvé l'élément qui a déclenché l'émergence de la vie sur Terre ?» Alors, comment recevez-vous l'un et l'autre ce genre d'annonce et quel problème soulève ce genre d'annonce, Grégoire Danger ?
Alors oui, c'est toujours des annonces qui sont extrêmement intéressantes, hein, puisqu'en effet, il y a différents retours de missions spatiales à Hayabusa, aux OSIRIS-REx, hein, de la NASA et de la JAXA, qui montre en effet que bien à la surface des astéroïdes, on a énormément de molécules organiques. Alors les molécules organiques, c'est basé à base minimum carbone, hydrogène, oxygène, donc c'est la matière constitutive des systèmes vivants terrestres. Mais souvent, il y a un raccourci qui est fait trop rapide, en fait, entre le fait de découvrir la matière organique et de dire qu'il y a possibilité d'avoir de la vie. Puisqu'en fait, évidemment, la matière organique, on estime qu'elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut lui ajouter, dans quel environnement il va falloir qu'elle se trouve, pour eh bien permettre de jouer un rôle dans l'émergence, dans la transition de l'inerte vers le vivant. Et c'est toute la question sur laquelle on travaille avec Philippe.
Philippe Enguet, même question. Comment ces articles titrés à grand renfort voilà, d'annonces spectaculaires nous induisent-ils finalement déjà d'une certaine façon en erreur sur ce qu'est l'origine de la vie sur Terre ?
Dans ces articles, on reporte beaucoup les briques du vivant, en effet. Et il y a la question qui se pose de la vie comme processus. Et la question des conditions, c'est l'interface, les conditions aux limites. Comment est-ce que ces processus peuvent se mettre en place et pourquoi ils se mettraient en place? Donc si on prend ces briques du vivant et qu'on les mélange, on peut faire l'expérience maintenant. En laboratoire, on ne va pas obtenir quelque chose de vivant. Et ne serait-ce même qu'arriver à prendre la constitution d'une cellule à partir de briques et créer un processus vivant à partir de là, on n'est pas capable de le faire à l'heure actuelle.
On n'a pas encore recréé voilà, cette origine de la vie. C'est une question qui hante l'histoire des sciences, l'histoire de l'humanité. On n'aura pas le loisir aujourd'hui de raconter toute cette histoire-là. Mais tout de même, on a besoin de quelques critères, de quelques marqueurs historiques un peu dans l'histoire de la biologie, de la chimie, Grégoire Danger, pour comprendre dans quels termes on a posé la question de l'émergence de la vie sur Terre depuis globalement 2 siècles. Si on devait, à partir du 19e siècle, pointer du doigt certains moments, certaines expériences, certaines découvertes, qui ont conduit à poser cette question de l'origine de la vie sur Terre d'une autre façon. Quels seraient ces marqueurs-là?
Ben, je pense qu'il y a, c'est au niveau expérimental où on a pu faire des sauts assez importants. Donc, en effet, au 19e siècle, vous avez un chimiste qui s'appelle Wöhler, en fait, qui a travaillé sur la synthèse de ce qui s'appelait initialement l'inorganique. C'est-à-dire que c'est toute la matière qui était extérieure au système vivant, puisqu'à l'époque, c'était le vitalisme. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le système vivant, il y avait de la matière, mais on y a soufflé une transcendance, un souffle divin, on va dire. Et ce qu'il a montré, et on pensait que toutes les molécules qui étaient constitutives de vivant ne pouvaient pas être formées en dehors du système vivant, parce que justement, il y avait cette force vitale qui était présente dans les systèmes vivants. Il a montré, en fait, qu'à partir de molécules qui sont pas du tout liées au système vivant, il a formé une molécule qui est l'urée, qui est constitutive des systèmes vivants, qu'on peut trouver dans un système vivant. Et là, ça a été une certaine révolution. Et lui-même a mis beaucoup de temps à accepter son propre résultat, en fait, hein, tellement que ça renversait totalement ce qui pouvait être pensé initialement. Et ça, je dirais que pour la chimie, c'était vraiment justement un élément qui a montré bien qu'on pouvait former des molécules qui sont dans les systèmes vivants en dehors de tout système vivant.
On a créé de l'organique à partir de l'inorganique.
Résumé. En très gros résumé, c'est ça.
Philippe Henguez, donc là on parle d'une expérience capitale en chimie au 19e siècle. Quels autres marqueurs historiques peut-on apporter sur la table pour comprendre comment s'est posée cette question de l'origine de la vie sur Terre?
Il y a une expérience qui est importante pour moi, qui fait écho à celle-ci, c'est celle de Pasteur sur la génération spontanée. Et justement, dans un cadre de pensée où il y a le vitalisme, et on pourrait se dire que si on met les molécules, hop, le processus va se mettre en route. Mais Pasteur montre que la vie ne peut pas apparaître spontanément en l'absence de vie préexistante. Ce qui était, en l'absence de connaissances sur les micro-organismes, quelque chose sur lequel les gens étaient potentiellement partagés. Donc, dans l'expérience de la vie courante, on pouvait voir quelque chose qui avait l'air non vivant et voir des insectes sortir. Donc, on pouvait se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de banal de voir la vie apparaître ou pas? Donc Pasteur, à peu près à la même époque, montre que non, pas du tout.
Et à ce moment-là, justement, vous le dites, voilà, on n'avait pas connaissance de ce monde microbien, etc. Quelles étaient les hypothèses, justement, les grandes hypothèses au XIXe siècle sur cette origine de la vie sur Terre? Est-ce qu'on avait une théorie dominante? Rappelons quand même que en 1853, si je dis pas de bêtises, je sais jamais la date, c'est 53, 56. Bon, bref, Darwin pose sa théorie de l'origine des espèces. Voilà, l'évolution entre en jeu. Comment on peut raccrocher cette théorie-là à cette question de l'origine de la vie sur Terre?
Oui, alors Darwin ne commente pas l'origine de la vie dans son livre L'origine des espèces, mais il y a un passage qui est très connu dans une conversation épistolaire qu'il a. Où il a ce paragraphe où il dit un grand si, voilà, il explique un peu une sorte de théorie de la flaque d'eau, on va dire, qui est chauffée, dans laquelle il y a énormément de composés qui s'organiseraient pour donner un processus vivant. Mais évidemment, c'est un scientifique très rigoureux, donc il sait qu'il n'est pas capable d'expliquer cette origine et il ne va pas vraiment au-delà.
Mais ce qui est quand même très intéressant dans ces échanges, c'est qu'il est quand même le premier à dire qu'il faut mettre de l'énergie dans un système pour que la matière puisse avoir une réaction particulière qui va lier à une certaine émergence, en fait. Et ça, c'est très intéressant parce que le niveau de la science à l'époque, hein, n'était pas celui qu'on a maintenant. Et donc, il a vraiment eu cette intuition-là qu'il fallait, oui, la matière organique, mais un environnement avec une énergie particulière. Et ça, c'est révolutionnaire dans la pensée de l'époque, je pense.
Darwin, il pose finalement trois grands piliers pour comprendre l'évolution de la vie, l'hérédité, la variation, la sélection. Pourquoi ces critères sont-ils particulièrement utiles, pertinents, mais aussi pourquoi ils viennent compliquer notre compréhension de l'origine de la vie? Philippe Henguez.
Alors tout d'abord, c'est très intéressant de réaliser le fait que Darwin, lui, et arriver à poser ces concepts sans aucune représentation moléculaire, et que ces concepts aient survécu et été vérifiés une fois qu'on a compris les processus moléculaires. Pour nous, qui faisons de la recherche sur l'origine de la vie, c'est d'autant plus intéressant qu'on cherche à parfois s'abstraire de la manière dont l'évolution fonctionne dans le biologique, parce que vous parliez de ces problèmes de poules et d'œufs, ils sont là. Et donc, on doit reconsidérer comment l'évolution pourrait commencer en reprenant les concepts darwiniens à leur base, c'est-à-dire sans se dire, tiens, c'est la réplication de l'ADN.
Il y a un problème aussi vraiment vertigineux, Grégoire Danger, c'est le fait de postuler un départ à l'évolution. Et pourquoi ce problème-là, finalement, d'une certaine façon, il crée des nœuds au cerveau?
Parce qu'en fait, si vous regardez les systèmes biologiques, vous avez des systèmes qui, en termes d'organisation, sont extrêmement complexes. Donc si on essaye de partir du point zéro, ça va être extrêmement difficile parce que vous avez une évolution à la fois chimique, puis ensuite biologique, qui est extrêmement contrainte par l'environnement. Et ça, ces variations de l'environnement, on n'est pas capable de les retracer. Donc en fait, c'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire que on ne sait pas à partir de quel moment les systèmes vivants contemporains ont pris forme, en fait. Mmh. Donc, on a le Lucas, là, je me rappelle plus.
Last Unique Common
voilà,
Ancestor.
Exactement, ouais. Mais qui est déjà un système qui est extrêmement organisé, donc très loin de l'origine de la transition inerte vivant. Et toute la question, c'est ça, c'est comment, dans quel contexte, ont pu se mettre en place ces systèmes vivants. Et puis, peut-être que les systèmes basés sur les protéines, l'ARN, l'ADN, n'étaient pas les premiers systèmes vivants qui sont apparus. Et donc, on n'a aucune trace de ça. Donc, c'est ça qui est extrêmement difficile. C'est si on essaye de s'intéresser à l'origine de notre vie terrestre, c'est très difficile de pouvoir remonter à ça. Ce qui est différent de s'intéresser à l'émergence de processus qui présentent les mêmes propriétés que la vie, puisque différentes molécules peuvent porter un même processus.
Alors, on va parler bien sûr de processus tout au long de cette émission. On va faire un petit bond dans le temps avec notre archive du jour. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Eureka, diffusée sur la RTF. Le journaliste François de Closet posait ses questions au chimiste Gérard Toupens. C'était en 1970.
Nous nous retrouvons avec un problème à trois niveaux. Les pièces détachées, les machines, l'usine. Alors, le premier problème... Comment sont apparues ces petites molécules qui sont les briques élémentaires de la vie?
Oui, alors ceci, c'est fait. On sait parfaitement maintenant que dans les conditions qui régnaient sur la Terre, les matériaux, les briques élémentaires se font tout à fait spontanément, naturellement.
Bon, alors quelles étaient ces conditions sur Terre il y a des milliards d'années?
Ces conditions étaient très différentes de ce qu'elles sont maintenant, et en particulier l'atmosphère ne contenait pas d'oxygène ou extrêmement peu d'oxygène libre, mais au contraire beaucoup d'hydrogène en particulier.
Et comment peut-on prouver que cette atmosphère et ces conditions permettaient de fabriquer spontanément ces produits?
C'est ce qui a été fait en 1953 par des expériences qui ont été faites par Stanley Miller aux États-Unis et qui ont montré que lorsque on a cherché à reconstituer le milieu terrestre dans un ballon avec une atmosphère et un océan qui était de l'eau dans le fond du ballon, si on envoyait des étincelles électriques dans ce milieu, au bout d'une semaine environ, on s'apercevait qu'il se formait justement les briques élémentaires, les acides aminés en particulier.
C'est une expérience fantastique qui a été faite là.
Oui. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce garçon, Stanley Miller, cherchait à faire une thèse, il terminait ses études.
C'était un étudiant, et même les étudiants font de grandes choses, Philippe Henguet. Alors, cette expérience de Stanley Miller, elle a marqué un jalon important, justement, dans la constitution de ces briques élémentaires nécessaires à l'émergence de la vie terrestre. Est-ce que c'est une expérience qui, encore aujourd'hui, fait référence, quand on cherche à comprendre ce problème-là?
Je dirais qu'elle fait vraiment beaucoup référence aujourd'hui, dans le sens où on est plutôt en train de la revisiter. Je dirais que depuis l'expérience de Miller, alors elle a beaucoup fait référence, on en a beaucoup discuté, mais finalement, étonnamment, peu de gens se sont lancés dans le même genre d'expérience après, pendant au moins 50 ans. Donc il y en a eu quelques-unes. Et c'est peut-être que le fait que ce soit un étudiant, la naïveté de la jeunesse fait qu'il a pris le risque de faire ce genre d'expérience, des mélanges compliqués, qui sont complètement à l'opposé, je dirais, de la pratique habituelle de la chimie. On cherche plutôt à faire un produit pur. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment très marquant. Et maintenant qu'on a des moyens techniques pour analyser des mélanges plus complexes, et aussi des moyens conceptuels qui sont encore en développement, je pense que c'est le moment de revisiter ça. Alors c'est particulièrement ce que Grégoire fait dans son laboratoire.
Ouais. Grégoire Danger, vous êtes à votre façon un héritier de Stanley Miller.
Oui, on va dire ça comme ça en toute modestie. Mais non, je pense que ce qui est vraiment important dans cette façon de voir la chimie, c'est que c'est vraiment des expériences qui sont ce qu'on appelle non dirigées. C'est-à-dire que le problème un petit peu en tant que chimiste organicien, on va se dire on veut former telle molécule, donc on va contraindre les conditions pour aller vers là où on veut. Là, l'idée, c'est qu'on prend un point de départ, on ne sait pas où on va aller. Et derrière, en fait, la problématique, c'est non pas d'essayer de forcément de se dire comment les molécules se forment, mais c'est de pouvoir détecter ce qui se passe. Et ce que dit Philippe, c'est ça, c'est qu'en fait, en 53, on n'avait pas les technologies qu'on a maintenant. Et maintenant, comme disait Philippe, c'est que maintenant, on a les outils analytiques, c'est-à-dire la capacité de voir des molécules, de pouvoir différencier des milliers de molécules qui sont générées par ces expériences-là. Et donc, maintenant, on a les capacités pour aller vers ces expériences non dirigées, en fait.
Vous utilisez le mot de condition. C'est un mot aussi qui a beaucoup été présenté et qui a été prononcé dans cet archive. Philippe Henguet, en quoi ce terme-là, qui nous semble banal, est capital pour poser les bases de vos expérimentations?
Ben, pour continuer sur l'expérience de Miller, donc il a repris cette idée de Darwin de mettre de l'énergie. Et maintenant, on va plus loin. On parle de hors équilibre, c'est-à-dire que si on laisse une réaction se faire dans un milieu fermé, même si on a mis de l'énergie au début, au bout d'un moment, tout va s'équilibrer au sens thermodynamique. C'est-à-dire que les distributions, les types d'espèces qu'on va voir, vont pas être vraiment déterminées par la cinétique des réactions. Alors, c'est un peu technique, mais finalement, ce qui est clé là-dedans, c'est de mettre le système hors équilibre. Mmh. Le système vivant, nos cellules, nous-mêmes, nous sommes hors équilibre parce que nous sommes des systèmes ouverts qui consommons de l'énergie, qui consommons des nutriments, etc. Et donc, c'est ça l'étape qu'on franchit en termes de conditions majeures à l'heure actuelle, c'est de mettre le système hors équilibre et donc d'ouvrir le système.
Grégoire Danger, une réaction à...
Oui,
et
je pense que c'est vraiment l'élément important ici, c'est ce que dit Philippe, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on se focalisait sur les building blocks, ce qu'on appelle les acides aminés. On détectait des acides aminés, alors on pourra en discuter plus tard, on en détecte maintenant dans beaucoup d'environnements. Mais la question, voilà, maintenant, c'est de développer des approches expérimentales qui vont nous permettre de comprendre comment cette transition s'est faite de ces building blocks, la synthèse de ces building blocks, et puis d'aller vers ces systèmes qui vont s'organiser, en fait, vers le début de l'organisation chimique, puis ensuite évoluer vers l'organisation biochimique. Et ça, je pense, c'est vraiment ça, maintenant, sur lequel il faut aller.
Et vous travaillez évidemment là-dessus. Il faut quand même qu'on reste dans ce cadre-là. 1953, c'est aussi la mise en évidence de la structure en double hélice de l'ADN. En quoi, Philippe Henguet, cette découverte vient encore ajouter une brique de complexité à notre compréhension de l'émergence de la vie? Pourquoi ce langage commun à tous les êtres vivants qu'est l'ADN va poser un certain nombre de questions en matière d'émergence de la vie terrestre?
Alors, sur le coup, évidemment, la découverte apporte des réponses justement sur la manière dont l'évolution est implémentée à l'échelle moléculaire. Donc, on comprend que l'ADN, c'est une suite de caractères, on va dire, un code linéaire d'informations, et qu'il y a une recopie de cette séquence, ce qui permet d'apporter la notion d'hérédité, qui est extrêmement particulière au vivant, qui différencie beaucoup le vivant des systèmes physiques et chimiques qu'on connaît par ailleurs. Et puis, il peut y avoir des mutations pendant la copie de l'ADN, donc des erreurs de copie qui vont apporter cette variation. Et puis ensuite, l'ADN, il y a tout un processus où il est, on dit, transcrit en ARN, messagers, puis sont traduits en protéines qui vont faire les fonctions catalytiques et donner toutes les propriétés des cellules.
Qu'est-ce qu'on appelle une fonction catalytique dans le cadre de l'ARN qui a été découvert en 61, lui, pour le coup?
Alors, on pensait que les protéines étaient les seuls catalyseurs. Et on revient à ce problème de poulet d'œuf, c'est-à-dire que une fois que l'ADN était découvert, puis qu'on savait que les protéines étaient des catalyseurs, donc étaient plutôt on parlait d'usines tout à l'heure, plutôt les machines de la cellule, ça posait immédiatement une sorte de paradoxe, parce que on a à la fois l'ADN qui a le code et les protéines qui font le travail. Les deux, ça semble très peu probable qu'ils soient apparus en même temps. Donc, au début, on ne connaissait pas l'existence de l'ARN, mais il a été immédiatement supputé qu'il y a quelque chose entre les deux, et ça a été découvert très rapidement, qu'il y avait l'ARN messager à l'Institut Pasteur dans les années 60, je crois. Et à partir de là, il y a eu cette hypothèse du monde ARN, c'est-à-dire que l'origine de la vie serait plutôt basée sur des ARN, vraiment une hypothèse très spéculative à l'époque, mais qui n'a fait que se renforcer, parce que dans les années 80, on a compris que les ARN pouvaient être des catalyseurs, donc aussi accélérer des réactions comme le font les protéines. Et ça, ça a vraiment confirmé cette hypothèse, ça l'a beaucoup renforcé, l'ARN pouvant être à la fois un porteur d'un message, donc une séquence, et aussi un catalyseur, donc remplacer l'ADN et les protéines.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit notre enquête sur les origines de la vie sur Terre avec vous, Philippe Henguet et Grégoire Danger. Grégoire Danger, je vous présentais comme chimiste, alors Philippe Henguet comme biophysicien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment un chimiste et un biophysicien se rencontrent pour aller à la rencontre et à mener cette enquête sur l'un des plus gros problèmes qui existent, à savoir l'émergence de la vie terrestre. Comment vous, en tant que chimiste, vous êtes venu, Grégoire Danger, à traiter de cette question-là?
Ah, oula, c'est une grande question. En fait, je pense que c'est une question sur l'émergence du vivant qui remonte tout simplement à lorsque j'étais gamin. C'est toujours des questions qui m'ont passionné, l'origine du monde, l'origine de la vie, l'origine du système solaire. Et en fait, c'est une construction, je dirais, intellectuelle au fur et à mesure des expériences que l'on a. Puis je suis arrivé à l'université, je savais pas ce que c'était un chercheur. Puis j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir ce monde-là et puis qui m'ont montré que, eh bien, on pouvait devenir chercheur et puis s'intéresser à ces questions-là en tant que chimiste. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de... C'est vraiment une progression pour moi. C'est pas quelque chose du tout...
Mais comment être passé d'objets, par exemple, d'analyse chimique dans l'espace à cette question de la vie sur Terre?
En fait, moi, j'ai commencé par la question de la vie sur Terre, puisque j'ai fait ma thèse avec Robert Pascal à l'Université de Montpellier sur, justement, la chimie prébiotique et comment on pouvait prendre les petits acides aminés, là, ce qu'on appelle les building blocks, et puis former des peptides. Les peptides, alors les peptides, c'est en gros des petites protéines, d'accord, qui n'ont pas encore l'action de catalyser tout ça, mais justement de voir à partir de quand on pourrait obtenir ces phénomènes d'accélération des réactions. Et ensuite, après, je suis allé, ce qu'on appelle, travailler à l'étranger, et puis je suis revenu en France, où j'ai travaillé à l'Institut d'astrophysique spatiale avec Louis Nandecourt. Et là, en fait, il m'a fait découvrir l'astrophysique, et comment est-ce qu'on pouvait simuler en laboratoire, en développement des expériences, des systèmes expérimentaux, pour comprendre la chimie qui se passait dans les milieux astrophysiques, et notamment lorsqu'un système planétaire se formait. Et comprendre l'origine de la matière qu'on peut observer sur les astéroïdes, comme on en a discuté tout à l'heure, avec les retours d'échantillons. C'est-à-dire, vous avez des missions spatiales qui sont allées à la surface d'un astéroïde, ont ramassé une partie des échantillons de surface, les ont ramenés sur Terre, et on a pu analyser avec les meilleurs outils analytiques qu'on a sur Terre. Et on a découvert ces dizaines, ces millions de molécules qui sont présentes, organiques, qui sont présentes à la surface de ces astéroïdes. Et en fait, comment on fait le lien? Tout simplement, ces objets, ces astéroïdes, ils peuvent arriver sur Terre, traverser l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle le météore, les fameuses étoiles filantes, et puis à la fin, ils impactent la surface de la Terre et c'est ce qu'on appelle une météorite. Et en fait, si vous vous promenez un peu dans le désert ou en Antarctique, eh bien, vous pouvez voir des micrométéorites ou des météorites. Et lorsqu'on les récupère, on les analyse, on voit qu'il y a la matière organique. Donc, ça veut dire qu'il y a 4,1, 4,3 milliards d'années où s'est fait cette transition, eh bien, on avait déjà cette matière organique extraterrestre qui pouvait être apportée à la surface de la Terre. D'où se posait la question, eh bien, comment est-ce que cette matière organique extraterrestre, une fois sur Terre, aurait pu jouer un rôle dans l'émergence des systèmes vivants. Donc c'est là où en fait se fait le lien entre, j'irais mes premiers amours avec l'origine de la vie, qui était la chimie prébiotique, et puis ce que j'ai découvert ensuite un peu plus tard avec Louis Dandecourt à l'Institut d'astrophysique spatiale.
Philippe Henguet, même question, vous qui êtes biophysicien, comment vous êtes-vous plongé et comment êtes-vous arrivé à cette question épineuse de l'origine de la vie terrestre?
Oui, en tant que physicien, je m'intéressais à l'évolution et en post-doctorat, quand j'étais en Hollande, j'ai découvert ces articles qui sortaient à l'époque sur l'ARN, justement, et les gens qui commençaient à concevoir des systèmes ARN capables de faire des copies d'eux-mêmes. Ça m'a énormément fasciné. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler sur ce sujet quand je suis arrivé à l'ESPCI. Mais sous un angle, je venais de la microfluidique, dont vous avez parlé tout au début. Donc, il y a une technologie qui permet de faire des micro-canaux, de l'ordre de 1 micron, 100 microns, et donc de contrôler des écoulements, notamment de former des gouttelettes très petites, qui sont de la taille de cellules. On va dire qu'elles ont, par exemple, 10 microns de diamètre. Et c'est en combinant ces systèmes ARN que j'avais découvert en lisant la bibliographie et la microfluidique, que ça a permis de commencer à faire des études sur quel est l'effet d'avoir des compartiments au lieu d'avoir des réactions qui sont complètement ouvertes, d'avoir tout un tas de compartiments dans lesquels il y a les réactions, comment ça change la dynamique évolutive. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le domaine et qu'on a fini par se rencontrer aussi avec Grégoire en se disant les systèmes que lui, il étudie, qui ont certaines dynamiques dans une soupe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut imaginer ce qui pourrait se passer si on commence à les mettre dans des compartiments qui ressemblent à des cellules?
On commence du coup à entrevoir les enjeux de vos travaux pour comprendre l'émergence de la vie sur Terre. On pousse en fait tout doucement la porte du laboratoire et puis ça tombe bien parce qu'on en arrive justement à notre reportage du jour. Un des prérequis dans le monde prébiotique pour que la vie puisse émerger, c'est la sélection de molécules fonctionnelles, comme par exemple des ARN, capables de coller ou de couper d'autres brins d'ARN. Et c'est le sujet de notre reportage avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous vous êtes rendu à l'ESPCI pour voir comment les minéraux ont pu jouer un rôle dans la sélection de ces brins d'ARN fonctionnels.
Oui, car il existe une large diversité de brins d'ARN. Il y en a des longs et complexes, mais aussi des très courts. Certains ont des formes particulières, ils sont plus ou moins repliés sur eux-mêmes, tandis que d'autres, au contraire, sont très plats. Et face à ce constat, le biophysicien Thomas Matreux s'est demandé comment est-ce que la Terre primitive a pu faire le tri entre les quelques brins d'ARN qui sont vraiment fonctionnels et qui peuvent bénéficier à l'émergence de la vie, et tous les autres brins très aléatoires qui n'ont pas de fonction et vont même plutôt avoir tendance à empêcher l'accélération des réactions chimiques qui ont précédé l'émergence de la vie. L'hypothèse sur laquelle travaille ce chercheur de l'ESPCI, c'est que ce sont les roches qui ont joué un rôle majeur dans ce processus.
Nous, on s'est dit, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur une Terre primitive. Et du coup, on pourrait dire, il y a de la dégradation par chaleur, de la dégradation par salinité, parce que l'ARN dégrade plus rapidement si la salinité est élevée. Mais à la fin, la sélection la plus facile, ou l'environnement le plus présent, peu importe où on se situe sur cette Terre primitive, c'est les minéraux, les rochers, les argiles. Et du coup, on s'est dit, on va regarder comment est-ce que ces pierres ont pu pousser une sélection vers des brins d'ARN plutôt fonctionnels.
Quand de l'ARN passe sur une roche, certains brins viennent s'accrocher à la surface ou dans les différentes couches du minéral. C'est peut-être ce mécanisme qui, à un moment donné dans l'histoire de notre planète, a favorisé les brins d'ARN fonctionnels en les concentrant particulièrement à un endroit. Pour éprouver cette hypothèse, Thomas Matreux observe comment différents types d'ARN sont absorbés par différents types de roches.
On teste ça en prenant un peu de poudre d'argile, en le mettant dans un petit tube expérimental et en ajoutant de l'ARN dans de l'eau.
Pendant... Cette expérience-là, c'est les petits tubes qu'on a juste ici.
Oui, c'est exactement ça. Là, en bas, on voit encore l'argile. Et là, en haut, on voit de l'eau avec de l'ARN dedans. Évidemment, l'ARN, on ne la voit pas, mais elle est dedans.
Et après, est-ce qu'il y a aussi besoin de laisser ce tube au repos pendant un moment?
Oui, c'est ça. Ce que nous, on fait, c'est laisser reposer tout le mélange pendant 2 heures ou même plus longtemps que ça, à la température ambiante et aussi élevée. Et après, on retire l'eau qui est encore présente et on mesure la concentration. La concentration en ARN. Et cela nous permet après de conclure combien d'ARN a été absorbé sur la pierre, combien d'ARN est encore en solution. Et vu que nous, on a déjà des dessins d'ARN, des brins d'ARN un peu divers, on peut comparer comment est-ce qu'un ARN, par exemple, tout simple et qui ne replie pas du tout sur lui-même, s'absorbe sur les pierres et comment est-ce qu'un ARN qui est fortement replié sur lui-même est absorbé sur les pierres.
Faire la distinction entre l'absorption de la pierre d'un ARN fortement replié ou non replié, ça sert à quoi? Est-ce que l'un des deux est plus à même de former un ARN qui sera fonctionnel ensuite?
À la fin, ce qu'on cherche, c'est le milieu entre les deux. C'est les ARN partiellement repliés sur eux-mêmes.
Ah, c'est eux qui peuvent être plus fonctionnels.
Si on regarde tous les données d'ARN fonctionnelles que les gens ont trouvées, on voit que principalement, c'est des arènes partiellement repliées sur eux-mêmes. D'accord. Et du coup, dans un premier temps, on essaye de déjà regarder est-ce que ça correspond à ce qu'on trouve dans les expériences sur les pierres.
À l'avenir, Thomas aimerait mettre plein d'ARN de formes différentes dans le même tube à essai pour voir lesquelles sont davantage absorbées que d'autres. Mais pour l'instant, pour simplifier l'expérience, il ne teste qu'une forme de brin d'ARN à la fois. Et pour mesurer les concentrations, la machine qu'il utilise s'appelle un spectrophotomètre à microvolume. Elle ressemble un peu à un robot de cuisine multifonction avec un écran de contrôle et une minuscule chambre dans laquelle on place l'échantillon.
On charge juste un microlitre sur ce petit spot. Et après, on ferme la machine.
Le point, il est minuscule. Oui. Le point où on vient placer l'ARN, c'est quoi qu'on vient placer exactement? C'est une sorte de goutte d'eau dans laquelle il y a de l'ARN?
Exactement. C'est une goutte d'eau qu'on place. Et après, le petit point noir que vous voyez, c'est vraiment la partie optique de cette machine.
D'accord.
Et du coup, quand on le ferme, la machine mesure l'absorption.
Elle envoie une lumière à travers ce petit point qu'on voit. Et en fonction de la lumière en sortie, on peut savoir combien il y a d'ARN dans l'échantillon.
C'est ça. Pour imaginer que j'arrive avec mes 100 échantillons et qu'un par un, je pipette une petite goutte d'eau dans la petite partie noire et que j'analyse la concentration.
Ces études que vous avez menées dans ces tubes à essai avec différents types de roches et cette solution, cette eau dans laquelle il y a de l'ARN, qu'est-ce qu'elles ont permis de comprendre sur justement l'apparition d'ARN fonctionnel?
On a déjà compris qu'il y a une forte sélection et que aussi avec des étapes d'absorption sélective et de remise dans l'eau, parce que ce que j'ai pas encore dit jusqu'à maintenant, c'est que si on change maintenant la température ou la salinité de l'eau qui entoure la pierre et l'ARN, ça peut aussi redissoudre une partie de l'ARN. C'est-à-dire, c'est un processus réversible. C'est pas qu'une fois que l'ARN colle à la pierre, qu'elle est perdue pour jamais.
Donc derrière, il y a d'autres tests à mener pour mieux comprendre ces interactions.
C'est ça. Donc après, on a aussi créé une bibliothèque d'ARN qui contient d'ARN avec des formes très très différentes. C'est-à-dire, on a des formes très simples, on a des formes aussi très très complexes qui ressemblent plus à ce qu'on trouve comme ribosyme.
Un ribosyme, c'est un long ARN qui est fonctionnel et qui a une action, donc.
C'est un ribosyme, c'est un brin d'ARN qui peut, par exemple, liguer d'autres brins d'ARN, qui peut couper des brins d'ARN ou qui peut avoir d'autres fonctions juste utiles pour la vie, pour l'émergence de la vie. Et avec cette bibliothèque, après, on va les exposer aux pierres et après, on va faire du séquençage et ainsi espérer de mieux comprendre des règles générales d'absorption.
Merci beaucoup Loïc Dutoit. On retrouve bien sûr votre reportage dans notre collection de reportages dans le podcast La Science au Labo sur l'appli Radio France, bien sûr, mais aussi sur la page de La Science au Labo, sur le site de France Culture, franceculture.fr. Une réaction, Grégoire Danger, à ce travail de recherche et à ce reportage sur les ARN?
Je pense que oui, c'est extrêmement intéressant parce que ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment la sélectivité a pu émerger. Et il est vrai qu'initialement, la chimie prébiotique était beaucoup faite par alors soit les géologues, soit les géochimistes d'un côté, donc vraiment que la partie minérale, ou les chimistes organiciens de l'autre. Et je pense qu'il faut lier les deux mondes parce que c'est ce qui montre ce genre d'expérience-là, c'est qu'il y a une interaction, il y a des effets de sélectivité.
On parle de sélectivité, je vous interromps, on parle de quoi concrètement?
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 4 molécules ABCD et puis vous allez avoir la molécule C qui va avoir plus d'affinité avec le minéral et donc ça va sortir la molécule de l'environnement liquide dans lequel elle est. Donc en fait, on va sélectionner cette molécule-là et c'est ce que montre Thomas, c'est-à-dire que grâce à la surface minérale, il va avoir une affinité plus ou moins importante avec certains brins et c'est ce qui va permettre de sélectionner, de prendre certains brins dans l'environnement liquide pour finalement les concentrer. Mmh. D'accord, et c'est ce qui est intéressant, c'est que là on voit qu'il y a un effet de sélection qui semble apparaître et puis après voir quelle est la propriété de ces brins-là, ça c'est le job de Philippe.
Philippe Engue, une réaction également à ce reportage?
Oui, donc ça, c'est un point de départ, en effet, qui n'est pas encore compris, mais on espère qu'une fois qu'on l'a compris, justement, on pourra mettre en place des processus d'auto-reproduction de l'ARN, parce que dans certaines régions de l'environnement, donc ça pourrait être effectivement sur certaines roches, il y aura un enrichissement des brins d'ARN plus favorables à attacher d'autres brins d'ARN, et peut-être que certains de ces nouveaux ARN qui sont plus longs vont se replier et eux-mêmes en attacher d'autres, etc. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on boucle la boucle en quelque sorte, ce qui permet d'avoir un processus dit autocatalytique, où il y a une amplification de certaines espèces moléculaires au sein de mélanges qui initialement sont aléatoires ou extrêmement complexes. Et on peut imaginer que par ce truchement, c'est une sorte de démarrage de la vie. Alors, pas encore la vie telle qu'on la connaît, mais quelque chose qui commence à être proche de la vie.
Alors, on a parlé là, vous évoquiez un point de départ. On sait quand même des choses. J'aimerais en bilan, en mi-bilan, bilan de mi-parcours, quand même qu'on fasse un petit rappel sur ce qu'on sait, de ce dont on a besoin nécessairement pour que la vie émerge. Grégoire Danger, quels sont les éléments desquels on ne peut absolument pas se passer pour que la vie émerge sur Terre ?
Alors déjà, la matière organique, c'est ce qu'on discutait au tout départ. Hein, et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, avec les missions spatiales, les observations avec les télescopes, là, comme le Jeb West, on obtient de plus en plus d'informations comme quoi la matière organique, finalement, c'est pas compliqué d'en faire. Donc, il y en a à peu près partout. Il y en a sur Titan, il y en a sur Europe, il y en a sur les astéroïdes. Maintenant, la question, c'est ce qu'on discutait précédemment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut ajouter, dans quel environnement il faut la mettre. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut de l'eau liquide. Et puis après, il faut pas trop d'oxygène pour éviter de dégrader trop rapidement la matière organique. Et on sait que sur la Terre primitive, initialement, il n'y avait pas d'oxygène, justement. L'oxygène très, très peu.
Oui, quasiment toxique, quoi, du coup.
Oui, c'est ça, en fait. En fait, ça va bloquer, en gros, la formation de matières organiques qui sont nécessaires à l'émergence du système vivant. Alors après, évidemment, la biologie s'est adaptée. Maintenant, utilise l'oxygène comme une source d'énergie. Mais initialement, il y a 4 milliards d'années, vous aviez pas d'oxygène, si ce n'est généré par les phénomènes géochimiques.
Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant notre discussion et on va enfin pouvoir présenter en détail vos travaux de recherche et les modèles que vous utilisez ainsi que les enjeux nombreux qui entourent ces travaux. Transmission par Radio 4 dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de recherche qui tente de recréer en laboratoire les conditions pour qu'émerge une évolution telle que l'entendait Darwin. Et nous en parlons avec les deux artisans d'une recherche particulièrement novatrice, Grégoire Danger, professeur de chimie à l'université Aix-Marseille, responsable de l'équipe Astro du laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires, et Philippe Nguet, biophysicien, professeur de biologie à l'ESPCI de Paris. Alors Philippe Nguet, on avait reçu à ce micro l'astrobiologiste Nathalie Cabrol, qui elle va chercher dans des lacs de très haute montagne, une espèce de vie d'avant la vie, on peut le dire de façon un peu grossière comme ça, où il y a des conditions d'acidité, de salinité, un pH particulièrement élevé ou pas, qui expliquerait finalement l'émergence de la vie sur Terre ou qui se rapprochait de ces conditions-là. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'escalader des montagnes et comment vous êtes dit on va faire ça plutôt en laboratoire avec des micropuces et on va essayer de créer des milliers d'environnements à l'échelle microscopique pour trouver le mystère, percer à jour le mystère de l'origine de la vie sur Terre.
Oui, alors si on regarde un lac, on voit qu'un lac, finalement, c'est très important de faire ce genre de choses pour essayer de comprendre comment, dans des environnements réalistes, quelles peuvent être les conditions. Mais le problème, alors on pose souvent la question de l'origine de la vie, finalement, est-ce qu'on peut vraiment étudier ce phénomène dans le sens où peut-être ça a pris extrêmement longtemps, donc c'est impossible à l'échelle d'une vie humaine de reproduire ce phénomène, ou bien ça a pris une planète, voire un univers, pour que ça apparaisse quelque part. Donc, en quelque sorte, on trouve un juste milieu qui est de faire ce qu'on appelle du criblage, c'est-à-dire de créer énormément de conditions initiales, et on va essayer de les focaliser sur celles qu'on pense être intéressantes. Ensuite, voir si, à partir de ces conditions initiales, il émerge des nouveaux états. On parlait d'autoreproduction, par exemple. Alors, on rêve d'avoir un système qui évolue au bout d'un moment. Donc, quels sont les mélanges qui peuvent finir par évoluer? Et ces technologies nous permettent de faire des milliers, des millions, voire plus, de conditions initiales et de les étudier en détail.
Alors, je suis curieux, qu'est-ce que vous mettez dans ces micro-réacteurs qui sont des analogues, finalement, de milieux prébiotiques? Qu'est-ce que vous allez intégrer comme substance, comme matière?
Alors, nous, quand on en a beaucoup parlé, on met souvent de l'ARN, donc des séquences d'ARN qui vont être plus ou moins aléatoires. Et souvent, on va quand même biaiser le contenu pour que ces ARN aient un potentiel pour être des catalyseurs. Donc, aller effectuer des transformations sur d'autres ARN pour avoir ce côté un peu auto-organisation où certains ARN vont en modifier d'autres, etc. Et voir quel est le nouvel état du système une fois que toutes ces réactions travaillent de concert. Il y a l'ARN, on va aussi mettre des différentes réactions, hein, des réactions organiques de petites molécules, comme la réaction Formose, qui là est plus la spécialité de Grégoire.
Grégoire, donc j'ai cette réaction Formose, de quoi on parle? C'est un joli nom, mais c'est complexe.
Oui, alors l'idée c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut former des sucres. Alors les sucres, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une des petites building blocks de l'ADN et de l'ARN. Et la grande question, c'est qu'avant de pouvoir former l'ARN ou l'ADN, eh bien, il faut essayer de comprendre comment, justement, quelles ont été les conditions qui ont permis d'associer les différentes building blocks, donc les sucres, les bases nucléiques, le phosphate, hein, et puis tout ça, ça s'enchaîne et puis ça fait des bras. Et la question, mais d'où viennent ces fameux building blocks? Alors, vous avez différentes possibilités, et une des réactions qui est très connue, c'est la réaction de Formose. Et l'intérêt de cette réaction de Formose, en plus, c'est ce qu'on appelle, c'est qu'elle est potentiellement autocatalytique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un composé qui va rentrer dans la réaction, qui va être capable de se reproduire lui-même. Mmh. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que, sans aller jusqu'à dire c'est le processus du vivant, mais on se rapproche un petit peu de réactions chimiques qui présentent ces propriétés-là. Donc, c'est là où elle est intéressante, c'est qu'à la fois, elle nous permet de former des building blocks, d'avoir cet effet un petit peu autocatalytique qui émerge. Le petit problème qu'il peut y avoir, c'est que si vous mettez, alors c'est à partir du formaldéhyde, à quelles sont les bonnes conditions, vous allez faire énormément de sucres différents. D'où l'intérêt de voir dans quelles conditions pour avoir l'émergence d'une sélectivité, encore une fois, qui sélectionnerait certains sucres qui pourraient avoir un intérêt.
Philippe Henguet, si on doit décrire les nombreux modèles voilà, que vous étudiez dans le cadre de vos recherches, quelles seraient ces différentes familles de modèles?
Alors, on fait des modèles qui sont plus sur l'organisation des molécules entre elles, donc l'autocatalyse, la capacité à la variation et des propriétés évolutives, donc reproduction, hérédité, variation, sélection. Et puis, alors, on a des choses qui sont, je dirais, plus en amont. Est-ce qu'un compartiment ouvert, justement, dans lequel il y a des propriétés de sélectivité des échanges entre compartiments peuvent modifier la dynamique de la réaction? Nos cellules, nos propres cellules sont dites semi-perméables, c'est-à-dire qu'elles sont fermées et ouvertes en même temps. Elles sélectionnent qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Et ça, on étudie ces effets pour voir si ça permet d'améliorer, ou en tout cas s'il y a certaines de telles propriétés qui sont favorables aux propriétés du vivant. Et puis, on a des choses plus en aval, mais qui correspondent toujours sur des propriétés de compartiments un peu plus avancées.
C'est-à-dire que chez ces protocellules, il y aurait déjà un embryon de sélection qui se manifesterait et qui ferait que certaines, finalement, prennent le dessus sur d'autres?
Voilà, c'est ça. Donc, si les cellules, on doit avoir une forme d'écologie, finalement, qui commence à se développer avant qu'il y ait de l'évolution. Alors, quand on parle d'écologie, c'est les interactions entre les objets.
On est loin des arbres et
voilà,
et
on n'est pas du tout dans l'écologie telle qu'on l'imagine maintenant, mais on est quand même, dès le début, des entités qui interagissent, qui partagent des choses, qui sont en compétition pour des ressources. Et ça, effectivement, ça va avoir tendance à accentuer certaines propriétés évolutives. Donc, il y a vraiment un couplage entre ces deux types de dynamiques.
Vous questionnez aussi un autre aspect, c'est l'aspect de l'hérédité, puisqu'on en revient toujours à Darwin, mais cette hérédité sans polymérase que vous essayez de comprendre. Alors, de quoi on parle déjà quand on parle de polymérase? Et comment vous allez questionner cette hérédité sans polymérase?
Alors, c'est un vaste sujet, mais qui est vraiment, pour moi, le sujet central. Dans le vivant, comme j'expliquais au début, l'ADN est recopié. Donc, c'est le fait que cette séquence, on puisse retrouver une copie quasi identique de cette séquence qui est distribuée dans les cellules filles. Ça va être le support et le mécanisme de l'hérédité dans le vivant tel qu'on connaît. Maintenant, à l'origine de la vie, les polymérases qui sont les enzymes, donc les protéines souvent, qui vont faire ce travail de recopie sont extrêmement complexes. Donc, elles n'ont pas pu apparaître au début, parce qu'elles avaient besoin elles-mêmes de l'ADN. Donc, on retrouve encore...
La poule et l'œuf.
Ça, c'est, je dirais, le problème le plus central. Donc, nous, on essaie de se demander s'il peut y avoir une émergence graduelle de copies. Mais là où il y a vraiment une clé très particulière qui est difficile à trouver, c'est que avoir des systèmes qui se recopient. Alors, la réaction Formose est autocatalytique, on a des ARN autocatalytiques, mais il nous faut des systèmes où il y a différents états de recopie, c'est-à-dire qu'il y a des états distincts qui peuvent entrer en compétition. Et ça, c'est très difficile à obtenir.
Et j'ai lu aussi en préparant cette émission que... Alors, je suis tombé sur ce mot que je ne connaissais pas, l'éco-acerva. Alors, de quoi on parle quand on parle de l'éco-acerva et comment vous intégrez aussi cette approche-là dans vos travaux de recherche sur l'origine de la vie sur Terre?
Alors, l'éco-acerva, c'est un objet assez historique parce que Oparin avait proposé une des premières théories, on va dire, moléculaires de l'origine de la vie par l'assemblage de composés, de polymères typiquement, donc des chaînes. Si vous avez des chaînes chargées plutôt moins comme l'ARN et des chaînes chargées positivement, elles vont avoir tendance à se regrouper et former spontanément une sorte de gouttelette, donc une entité collective dans laquelle il peut y avoir des réactions. Et nous, on revisite cette hypothèse. Et on regarde quelles réactions se passent dans ces gouttelettes qui se forment spontanément et dans lesquelles on va pouvoir avoir justement une forme de sélection. Peut-être les grands ARN vont rester dedans, continuer à faire leurs réactions, et puis elles vont pouvoir échanger des ressources et entrer en compétition les unes avec les autres.
Et là, on se rend compte que l'histoire des sciences sert toujours. vous revisitez finalement un modèle, comme vous le disiez, qui ne date pas d'hier. Alors j'ai envie de vous poser la question, je suis très curieux, Grégoire Danger, est-ce que vous arrivez à vous approcher justement grâce à cette approche des origines de la vie sur Terre et quels résultats vous obtenez qui sont intéressants pour répondre à notre question du jour?
Alors nous, on a une approche qui est complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, donc nous, on va utiliser les systèmes microfluidiques, c'est plus pour faire varier, de mettre dans différentes conditions ce qui a pu venir des objets extraterrestres qu'on appelle la matière organique. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que finalement l'environnement, les conditions de l'environnement vont pouvoir faire, en fait, varier la chimie qui se passe. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce soit l'expérience de Miller, maintenant, elle a été refaite, on a pu analyser ce que disait Philippe tout à l'heure, ou ce qu'il y a dans les météorites, vous avez des millions de molécules qui sont générées. Donc c'est ce qu'il y avait initialement. Il n'y avait pas un acide aminé ou un sucre, il y avait des millions de molécules. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que les conditions d'environnement vont permettre une nouvelle fois de sélectionner, c'est-à-dire de prendre certaines molécules pour les agencer entre elles et mener à un début d'auto-organisation. Donc on se retrouve avant ce que fait Philippe, c'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, c'est extrêmement intéressant, mais ça nous permet de comprendre bien quels sont les paramètres justement qui vont pouvoir jouer sur la sélection. Nous, on part vraiment de cette diversité moléculaire, donc on a une complexité en termes de diversité moléculaire, et on veut comprendre comment est-ce qu'on va vers une complexité organisationnelle, ce qu'est le système vivant. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de voir, et donc derrière, il nous faut toute une batterie d'outils analytiques pour essayer de suivre l'évolution de ces systèmes moléculaires.
Philippe Henguet, là, on parle d'environnement aussi, ça c'est une des grandes nouveautés dans votre approche, c'est de mettre au cœur de cette compréhension de l'origine de la vie sur Terre, cette notion d'environnement et de la rendre centrale finalement.
Oui, on parlait de la cellule comme un système hors équilibre. Il y a un moment où il faut arriver à définir, alors ça peut être un choix, qu'est-ce qui est l'environnement, qu'est-ce qui est le système. Quand on parle de propriété émergente du système, c'est toujours lié à un environnement, ne serait-ce que par le fait que justement il échange des choses qui entrent, qui sortent ou qui sont en compétition. Et on pose cette question maintenant de manière très large, direct dans notre approche. Moi, je suis pas spécialement focalisé pour dire oui, sur la Terre, c'est exactement comme ci, comme ça. Et du coup, on va recréer ces conditions et là, hop, la vie va apparaître. Je pense qu'on ne sait pas vraiment. Hein. Il y a beaucoup de débats sur quand même les conditions initiales. Donc, on va plutôt aller regarder tout un ensemble d'environnements possibles. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une question qui est particulièrement ouverte avec toutes les découvertes d'exoplanètes. Mmh. On se pose la question très généralement, comment la vie peut apparaître, et pas forcément juste comment la vie peut apparaître sur Terre, sachant que la Terre elle-même a probablement été un grand laboratoire avec plein d'environnements différents.
Et peut-être qu'il y a d'autres formes de vie qui ont été présentes sur Terre, qui ne ressemblent pas du tout à la nôtre, qui ont pu émerger, disparaître.
Ah, peut-être, oui.
Oui, ça c'est bon, il y a beaucoup de peut-être. En tout cas, ce qui est fabuleux dans vos travaux de recherche, c'est qu'on perçoit justement l'envergure des enjeux, qui ne sont pas que des enjeux liés à cette compréhension de l'émergence de la vie sur Terre, mais aussi de comprendre finalement si il y a de la vie ailleurs, est-ce qu'elle doit forcément ressembler à la nôtre ? Ça, c'est des grandes questions. Il y a des enjeux, bien sûr, méthodologiques, on l'a compris. Il faut aussi, fondamentalement essayer de comprendre et identifier les conditions minimales pour qu'une chimie, finalement, passe du désordre à une évolution rudimentaire. Il y a des enjeux philosophiques. On approche de la fin de... Enfin, philosophique, oui, parce que, en fait, finalement, ça nous oblige à nous poser à nouveau la question de ce qu'est la vie. Est-ce qu'il faut se concentrer plutôt sur la dimension de la vie comme un processus plutôt qu'une liste de molécules mais voilà, on n'a pas encore, bien sûr, trouvé l'origine de la vie sur Terre. Philippe Henguet, on s'en rapproche grâce à vos travaux. Quelles sont, selon vous, les limites principales de votre approche et les obstacles que vous devez franchir justement encore pour parvenir à des résultats encore plus importants?
Jusqu'à maintenant, je dirais que les limites... Il y a un peu un double mouvement dans ce type de recherche. C'est-à-dire qu'il faut forcément se focaliser sur des hypothèses particulières. Mais quand on voit leurs limites, par exemple l'hypothèse de la première polymérase, une polymérase qui serait faite d'ARN, on se rend compte, ah oui, elle est extrêmement complexe, elle n'aurait pas pu apparaître spontanément. Donc on essaie d'élargir l'hypothèse. Et c'est d'être suffisamment spécifique sur quel scénario. Donc en fait, on est en train de construire des scénarios à l'heure actuelle, ou des scénarii, et de spécifier suffisamment chaque étape pour imaginer quelle pourrait être la molécule et pouvoir le tester en laboratoire. Donc je dirais qu'on est dans une phase excitante, dans le sens où on peut le faire maintenant, et on commence à pouvoir formuler des hypothèses suffisamment précises pour pas juste rester dans la spéculation. Ça, je dirais que c'est quand même le gros changement par rapport à avant.
Grégoire Danger, le mot de la fin sur ces perspectives qui s'ouvrent à vous. Quels sont vos espoirs principaux en matière de recherche autour de ce sujet ?
Je pense que l'espoir, c'est que dans les prochaines années, on puisse vraiment réussir à identifier un ensemble de conditions, de paramètres qui nous permettent d'avoir cette sélectivité qui émerge à partir d'une diversité moléculaire. Et ça, si on arrive à montrer, on ne sélectionnera pas du tout forcément ce qui est relatif à la vie terrestre. Je pense qu'il y a une évolution spécifique de la Terre qui a mené à nos organismes vivants, qu'on ne peut pas recréer en laboratoire. Mais par contre, on peut essayer de comprendre si les paramètres qui permettent d'avoir l'émergence d'une sélectivité, la mise en place d'une auto-organisation de la matière, c'est restreint à quelques paramètres qu'on ne trouvera jamais, parce que c'est trop restreint, c'était sur Terre et uniquement sur Terre, ou au contraire, il y a différents paramètres, différents environnements qui vont pouvoir sélectionner différents types de molécules, mais mener au même processus. Et j'ai bon espoir que dans les 10 prochaines années, on arrive à avoir quelques expériences de laboratoires dans le monde qui arrivent à montrer ça. Et si on arrive à montrer au moins un environnement, eh bien, ça veut dire qu'il est différent de celui de la Terre, eh bien, on aura potentiellement l'information qu'on peut trouver de la vie ailleurs. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne sait pas.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous exposer l'avancée de vos travaux de recherche, Philippe Henguet, Grégoire Danger. Merci encore. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science.
Depuis quand sommes-nous exposés au plomb ? On sait que ce métal lourd a une influence sur la santé. Il peut provoquer des dommages réversibles ou irréversibles en fonction de l'intensité de l'exposition. Là, on parle d'intoxication. Le plomb induit des anémies, donc une carence en fer, de l'hypertension, des insuffisances rénales et en particulier chez les enfants, il est responsable du saturnisme, une maladie grave avec des effets neurologiques et un retard important de développement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plomb est toxique quelle que soit la concentration. Bien sûr, il devient davantage toxique plus on en ingère, mais il n'y a pas de valeur seuil, pas de concentration de plomb dans le sang qui soit sans danger. Et puis, contrairement à plein d'autres éléments chimiques, notamment métalliques, le plomb n'a pas de rôle biologique. Autrement dit, il n'a rien à faire dans notre corps. C'est pourquoi ce métal naturellement présent dans l'environnement est devenu un symbole de pollution purement humaine, dont l'usage s'est intensifié dès l'Antiquité. Renaud Johannes Boyau est professeur de géochimie et de géoarchéologie, enseignant-chercheur et vice-président de l'université de Southern Cross en Australie.
À partir de l'époque des métaux, le travail du plomb, donc notamment chez les Romains qui faisaient des canalisations, on a trouvé beaucoup de restes d'enfants et d'adultes romains avec des marques particulières où on voyait justement cette intoxication au plomb, et on le retrouve au Moyen-Âge, on le retrouve aussi à la période moderne, essentiellement, surtout d'ailleurs à la période moderne, avec une exposition au plomb qui vient d'énormément de facteurs, comme les peintures au plomb qu'on met sur les murs, les jouets d'enfants, pendant un moment donné, c'était couvert de plomb, il y a bien sûr les voitures avec les pots d'échappement, enfin, toutes ces pollutions anthropogéniques, et donc, comme on est à des niveaux très élevés, et que finalement, la toxicité au plomb n'est pas, bien qu'elle soit depuis longtemps, puisque même depuis l'époque romaine, en fait, elle était vraiment découverte après la période d'industrialisation. Et donc, on a associé ça immédiatement à côté anthropogénique. Être exposé au plomb, c'est à cause des activités humaines. On sait que c'est dangereux. Et donc, voilà. Et donc, personne ne s'est jamais posé la question de savoir si il avait été ingéré et incorporé avec des hommes préhistoriques.
Et c'est en analysant des dents de Néandertal que tout ce travail est parti. En 2017, ce chercheur et son équipe veulent faire la distinction entre les éléments chimiques qui sont incorporés par les fossiles de leur vivant de ceux qui surviennent après la mort. Ils décident de prendre le plomb comme élément chimique contrôle. Bah oui, le plomb c'est moderne, donc ça ne se retrouvera pas dans les dents. Et là, surprise, les dents néandertaliennes présentent du plomb, des lignes dites biogéniques qui signent véritablement que l'exposition a été faite pendant leur vie. C'est une découverte par sérendipité, un mélange de heureux hasards et de curiosité qui a poussé ces scientifiques à répéter l'expérience sur plein d'autres fossiles anciens, et c'est l'objet d'une toute nouvelle étude parue dans Science Advances. Les fossiles qui ont été étudiés ici sont des fossiles d'hominidés. Les hominidés, c'est un groupe qui rassemble des primates actuels et passés, donc les gorilles, bonobos, chimpanzés, orang-outans, mais aussi des singes disparus comme le gigantopithèque et toute la lignée humaine de l'australopithèque à sapiens en passant par Néandertal. Résultat, 51 dents fossiles provenant de 3 continents distincts portent des traces de plomb. Cela fait donc au moins 2 millions d'années que les primates sont exposés à ce métal lourd, donc bien avant l'âge de fer.
On voit des niveaux qui sont même de temps en temps beaucoup plus élevés que des populations modernes de la période industrielle forte, donc on va dire des années 50 ou 60, qui sont exposés à des pollutions chroniques, c'est-à-dire quotidiennes et assez élevées. Alors, il faut comprendre un petit peu aussi comment le plomb interagit avec la physiologie humaine, et on peut en parler. Mais en gros, ce qu'on voyait sur ces populations qui sont très ancestrales, qui remontent jusqu'à 2 millions d'années, et ben des niveaux qui, de temps en temps, étaient plus élevés que ces populations modernes exposées à de l'industrialisation accentuée, on va dire. Et donc, des niveaux de plomb très élevés. Ce que ça montre, en fait, ce plomb en signaux biogéniques assez intenses dans les dents, c'est aussi par rapport à la physiologie du plomb et la façon dont, on va dire, les primates gèrent cette toxicité du plomb.
Et les auteurs sont allés encore un cran plus loin. Ils ont créé de mini-organes cérébraux qu'on appelle des organoïdes, et leurs travaux suggèrent que notre espèce, Homo sapiens, possède un variant génétique qui limite au moins un peu les dommages neurologiques causés par le plomb. Une variation génétique absente chez Néandertal ou Denisova qui sont, je vous le rappelle, disparus. Alors, ne tirons pas de conclusions trop hâtives, on ne peut pas dire que c'est la raison de leur disparition. Une chose est sûre, l'exposition au plomb était loin d'être négligeable dans le passé, et on peut imaginer que cette exposition a exercé une pression de sélection sur les espèces anciennes. L'enjeu à présent est de comprendre si le plomb a eu un rôle dans notre histoire évolutive.
Merci beaucoup Alexandra, on vous retrouve bientôt pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Merci à Eric Perruchot-Triboulet, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD, et en attendant, gardez le bon cap. Il y a toujours une terre de science en vue.